Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. En commençant la lecture du livre « Parle-moi d'amour » de Michel Coast aux éditions Ouvrières, je veux juste reprendre quelques remarques faites lors de notre dernière lecture. Le sage et le jeune sont prêts à bavarder, à partager, lorsque l'enfant entre et tout directement inspecte la pièce. Il regarde les objets. Il se trouve bien. Il regarde toutes choses tranquillement. Suite à cela, le sage dit au jeune : c'est de ton attention et de ton amour, de ton affection dont l'enfant avait besoin, et non d'abord du bonbon. Et il poursuit : il en avait envie, mais pour lui, était-il nécessaire ? Son envie satisfaite, elle renaîtra, et l'instant d'après, et l'enfant reviendra pour obtenir de toi les bonbons qu'il attend. Ainsi, beaucoup de gens, beaucoup de personnes donnent aux enfants l'accessoire, mais le privent de l'essentiel. Dernière remarque à ce sujet venant du sage. Ce ne sont pas les bonbons, mais l'amour qui fait grandir les enfants. À la fin du chapitre, nous avons lu « Alors, l'enfant revint, qui cherchait un bonbon. Le sage avait raison. Il n'en a pas eu de moi, mais il a eu un baiser, et main dans la main, nous partîmes ensemble en partageant nos mots. » Le jeune qui était venu apprendre ce qu'est l'amour auprès du sage a franchi ici une nouvelle étape dans son apprentissage. Ses découvertes sur la vie, sur l'amour. Reprenons donc notre lecture. C'est étrange comme j'avais évolué. Chapitre 33. Je cherchais d'abord en la fille, supputant d'un œil que je disais averti, la qualité de plaisir qu'elle pourrait me donner. Puis, je quêtais de plus en plus la tendresse, découvrant que sous mon personnage avide et secoué de désir, battait un cœur sensible, souffrant de solitude. Serais-je aimée ? Mais j'étais toujours centrée sur moi, en quête de mon propre bonheur, ignorant que je ne le trouverai qu'en sortant de chez moi pour chercher le bonheur des autres et le bonheur d'une autre. Je parvins enfin à considérer les filles, non comme des objets de plaisir ou même de tendresse, mais peu à peu comme des personnes méritant d'être par moi comblées à cause de leur sourire, à cause de leur cœur, à cause d'elles. Et je me souvenais de ce que m'avait dit le sage. Il fallait, pour aimer, passer du désir de prendre à la volonté de donner et d'accueillir. Là était l'effort qu'il me faudrait poursuivre jusqu'au bout du chemin. Je n'aurais jamais fini de m'apprendre à aimer. Je m'y entraînais et c'est la vie entière qui changeait. Ma vie entière qui changeait. J'étais heureux. Le sage le voyait. « Bonjour, la vie !» me dit-il quand j'entrais. Il me souriait, heureux de ma joie affichée. « Oui, dis-je, je vis et suis heureux de vivre. Et demain, avec mon amour, nous donnerons la vie à des petits-enfants. Nous vous les présenterons et vous verrez qu'ils seront réussis. » Qu'avais-je dit ? Pour que le sage devint subitement si grave, il se taisait. Je savais maintenant entendre les silences. Certains étaient joyeux, d'autres tristes. Celui-ci était triste. Le sage enfin murmura : « Et si vous ne pouviez pas avoir d'enfant ? Nous en aurons, à tout prix, répliquai-je fièrement. Les hommes de science, aujourd'hui, font des miracles. Demain, ils en feront de bien plus importants, de bien plus grands encore. Ne dis pas cela, mon petit. L'enfant n'est pas un droit, mais un don. Le don de l'amour, quand il rencontre l'amour infini du Père de toute vie. Il est vrai que les hommes grandissent et qu'ils sont capables de merveilleuses prouesses. Avec eux, j'en suis fier, mais quelquefois inquiet. Dieu aurait-il peur de leur pouvoir, lui qui leur a donné? De leur pouvoir, sûrement pas. De la façon dont ils s'en servent, peut-être. Les hommes de notre génération, vois-tu, ont découvert le secret de la matière et maîtrisé la fabuleuse énergie cachée en son sein. Mais la première fois qu'ils s'en sont servis à la face du monde, c'est pour tuer 200 000 hommes à Hiroshima. Mais les savants sont au service de la vie quand il s'agit de l'enfant à naître. À la condition que jamais ils n'oublient qu'ils ne sont pas les maîtres absolus de cette vie. Celle-ci dépérira s'ils la pétrissent au levain de l'orgueil ou la fabriquent sur commande pour des hommes persuadés comme toi que l'enfant leur est dû à tout prix. Je l'entends palpiter la vie dans l'épaisseur du temps, mystère insondable, source sacrée, jaillie du cœur brûlant de l'amour. Je l'entends couler, sève bouillonnante dans les veines innombrables de l'immense humanité. Je l'entends qui appelle, exigeant le bourgeon, qu'étant deux cœurs aimants en deux corps consentants pour que naisse la fleur et le fruit de la fleur sous le soleil de Dieu. Croiriez-vous, homme savant, mais ignorant de vie, que le prestidigitateur habile, par hasard, fait sortir la vie de sa boîte miracle? Croyez alors que la semence que vous manipulez entre vos pinces aseptisées, des milliers d'hommes l'ont faite, de leur joie, de leur peine, et croyez que l'enfant qui naîtra de l'expérience réussie, jamais ne sera de vous seul la merveilleuse création, puisque depuis des siècles et des siècles, sa précieuse étoffe est tissée au long métier des tisserands d'amour. Croyez surtout, hommes savants et fiers, que quelle que soit l'agilité de vos doigts, de plus en plus experts, vous ne pourrez jamais façonner un enfant sans que les doigts du Créateur le façonnent avec vous. Alors, si vous croyez cela, homme savant, collaborateur de Dieu, c'est à genoux et priant, qu'humblement vous servirez la vie et peut-être célébrerez Noël en vos crèches de verre. Mais Dieu vous le demande-t-il? Et l'homme un jour sera-t-il capable d'aimer assez pour donner à l'enfant, bien avant qu'il ne naisse, tout l'amour auquel lui a droit et réclame? Hommes savants, et vous tous responsables des hommes, écoutez-le chanter, le petit enfant de demain. De toute éternité j'attends, désir vivant du Père, de partir en voyage pour mon long pèlerinage. Je viens de loin, je viens d'ailleurs, je suis en route depuis toujours. J'ai besoin de vous tous, mes frères précédents, qui me creusez mon lit dans le lit de vos vies, et quand des siècles ayant franchi les rives successives, avant de mettre pied à terre, avant de crier mon premier cri de vie, avant d'éclore mon sourire tout neuf, avant de balbutier les premiers mots de mon message unique, j'ai besoin de deux regards apprivoisés, de deux mains qui se cherchent, de deux souffles échangés aux lèvres qui se trouvent. J'ai besoin de deux « oui » librement prononcés. J'ai besoin de deux corps vivants habités de deux cœurs, corps et cœurs qui chantent le chant d'amour des amants. J'ai besoin pour naître d'un père qui soit mon père et d'une mère qui soit mienne, père et mère qui me portent en leur cœur, bien avant qu'en leurs bras ils ne puissent me porter. mais je ne veux pas naître de graines sélectionnées au laboratoire des magiciens, pas même de semences données par de généreux inconnus qui offrent leur surplus. J'ai besoin d'être fait dans un long cri d'amour. Rendez-vous réussi, stupéfiante rencontre, racine de bonheur en la chair plantée. Mais je ne veux pas naître en vos éprouvettes sans cœur, d'une étreinte glacée de parents sans bras, sans lèvres et sans chair vivante. J'ai besoin du ventre chaud de ma mère pour me blottir dans l'ombre du battement de son cœur qui rythme mon voyage vers la sortie du port. J'ai besoin des mains, des lèvres de mon père sur le corps de ma mère et de ses mots d'amour qui pleuvent sur ses dunes comme la rosée de nuit sur les bourgeons naissants. Mais je ne veux pas de ventre de location où j'entendrai des chants que je n'entendrai plus, encore moins de sinistres congélateurs où, tremblant de solitude, j'attendrai la chaleur d'un amour disponible sous les yeux sans regard de voyeurs appointés qui ne savent plus que faire de mes trop nombreux frères. Quand, enfin, parvenu au bout de mon très long voyage, ayant franchi victorieux 1000 et 10 000 obstacles, quand j'oserai risquer mon pied sur la planète dure et paraître à vos yeux chef-d'œuvre modelé, mais non point achevé, j'aurai besoin pour me laver des sueurs de la route, des larmes de ma mère pleurant sa joie sur moi. J'aurai besoin de prendre mon premier bain de lumière sur les plages de son corps et d'explorer ce corps dont je ne connaîtrai alors que l'envers de nuit. Mais je ne voudrais pas que ma naissance fût naufrage qui me jette affamée sur un sein inconnu, île perdue en mer dont je n'aurais pas appris le murmure des vagues. Homme savant, ne riez pas de ces autres savants qui plus tard fouilleront notre vieille mémoire, mines inépuisables aujourd'hui découvertes, à leurs yeux stupéfaits, ils y trouveront enterrés des milliers de souvenirs que jamais vous ne pourrez découvrir au bout de vos aveugles microscopes. Car, enfin, nous voyons, nous entendons, nous sentons, bien avant que sur cette terre nous apparaissions, et vous vous oubliez que nous n'oublions rien. Demain, sur ces souvenirs, mystérieuses fondations, nous bâtirons nos vies, et d'autres chercheront pourquoi la maison n'est pas toujours solidement bâtie. Pourquoi même quelquefois elle s'effondre aux tempêtes du monde? C'est que si vous pouvez, très habile potier, façonner nos chairs à l'argile soumise, vous oubliez que nos chairs d'enfants sont habitées de cœurs, si la chair de nos cœurs, point, ne vous pouvez modeler. Savant, je vous admire, et votre science me plaît, car je suis homme de demain. Mais moi aussi je crains que votre tête ne grandisse plus vite que votre cœur, car vous êtes les mêmes qui aujourd'hui œuvrez magnifiquement pour faire naître une vie, tandis que demain vous en arracherez 1000 au ventre jugé trop fertile. Et nos plaintes et nos pleurs sont gémissements bien faibles que vous n'entendez pas, car ils sont voix d'enfants couvertes par cris d'hommes qui défilent fièrement pour défendre vos libertés. Enfin, nous avons peur. Dans quel monde viendrons-nous? Hommes savants, et vous tous responsables des hommes, écoutez-moi encore, puisque de la bouche d'enfant, dit-on, sort la vérité. Si je suis enfin échappé du carnage nocturne, retenu par un fil d'amour, lancé je ne sais d'où, si je suis enfin tombé du nid, abandonné par père et mère, envolé ou mortellement blessé aux barreaux de leur cage, si je suis enfin nu sans vêtements d'amour ou vêtements empruntés, mais ayant droit de vivre puisque je suis vivant, et si au même moment des amants pleurent devant leur berceau vide, se consumant du désir de choyer un enfant, s'ils sont riches d'amour pour qu'ils jugent inemployés et qu'ils veulent gratuitement le donner pour que pousse et fleurisse ce qu'ils n'ont pas planté, alors je veux bien qu'ils viennent silencieusement me demander si je désire les adopter pour mes parents de cœur. Mais je ne veux pas d'obsédé de l'enfant, tel des collectionneurs d'objets d'art recherchent fiévreusement la pièce rare manquant à leur vitrine. Je ne veux pas de clients qui ont passé commande et réglant la facture viennent réclamer leur bébé préfabriqué. Car je ne suis pas fait pour sauver des parents aux membres amputés, mais eux ont été faits mystérieux cheminement, magnifiques projets pour sauver des enfants au cœur malade, peut-être même condamnés. Et nous nous apprivoiserons. Je boirai un lait dont j'ignorais le goût, j'écouterai des musiques inconnues, apprendrai de nouvelles chansons. Sur vos doigts, sur vos lèvres, parents adoptés, je déchiffrerai lentement l'alphabet de tendresse, et l'amour inconnu pour moi prendra visage à la lumière de vos yeux. Vous grefferez vos vies sur ma pousse sauvage, et grâce à vous, je renaîtrai pour la seconde fois. Je serai alors riche de 4 parents. 2 seront de ma chair, et 2 seront par mon cœur et ma chair grandie. Vous ne jugerez pas mes géniteurs inconnus, vous les remercierez, et vous m'aiderez à les respecter. Car il me faudra parvenir, je le sais, à les aimer dans l'ombre, si je veux pouvoir un jour m'aimer dans la lumière. Et si un soir d'orage, adolescent fougueux, empêtré de moi-même, je vous reproche durement de m'avoir accueilli, ne soyez pas peiné, aimez-moi davantage, car vous le savez, pour qu'une greffe prenne, il faut une blessure, et la blessure fermée demeure la cicatrice. Mais je rêve. Je rêve, car je ne suis qu'un enfant en voyage, loin de la terre ferme. Ma parole est muette et mon chant sans musique. Ce que je vous dis tout bas, je ne pourrai le dire haut, que le jour où m'ayant vous-même adopté, vous aurez mis en mon cœur assez d'amour et d'authentique liberté, sur mes lèvres suffisamment de mots, pour que je puisse dire « Papa, maman, je vous choisis et vous adopte ». Alors, vous saurez que votre amour est don et qu'il est réussi. Chapitre 34. Sans un mot, j'avais écouté le long chant de l'enfant à naître. Et dans la nuit maintenant, de plus en plus, j'entendais son appel et quelquefois ses plaintes. Je me révoltais moi aussi devant l'enfant déchiré, abîmé, et je pensais en entendant certains adultes juger sévèrement les jeunes, que ces jeunes étaient leur œuvre, et qu'en les condamnant, ils se condamnaient eux-mêmes. Mais demain, que ferais-je moi-même? Je sentais en effet que le moment approchait où, rencontrant une fille, l'un et l'autre, nous nous reconnaîtrions et bâtirions un foyer. Pourquoi? Je ne pourrais le dire exactement. Mais j'imagine que 2 musiciens qui, chacun de leur côté, travaillent longuement leur partition, savent un jour qu'ils sont prêts à exécuter devant tous leur duo. Devant tous? Là était justement la question que je me posais. J'en avais d'ailleurs souvent discuté avec mes amis. Fallait-il croire, pour créer un foyer, le déclarer devant monsieur le maire, faire de longues démarches et signer des papiers? Les lois étaient là, contraignantes, mais plus encore, ce que j'estimais être les vieilles habitudes. Il n'était guère pensable pour moi d'y échapper. Il aurait fallu me résigner à une longue bataille familiale que je n'avais pas le courage de déclencher. L'enjeu n'en valait pas la peine. Il reste que je trouvais ces coutumes totalement dépassées. Je pensais que l'amour entre 2 êtres était affaire personnelle et que leur engagement ne concernait qu'eux seuls. Quant au mariage religieux, j'y tenais maintenant très fermement, en ignorant pourtant, je l'avoue, quel était son sens profond. Les amoureux ne sont pas seuls au monde, me dit le sage. Et le voudrait-il ? Qu'il ne le pourrait pas. Si vous voulez, hommes et femmes réunis, vivre seuls dans l'enclos protégé de votre amour tout neuf, si vous voulez marcher main dans la main sur un chemin privé sans emprunter les routes où cheminent vos frères, si vous voulez, libérer de toute contrainte, traverser au rouge, vous arrêter au vert, manger quand d'autres dorment et dormir quand ils mangent, si vous voulez construire seul la maison de vos rêves et instruire vos enfants en refusant l'école, si vous voulez pétrir vous-même votre pain, tisser vos vêtements, éclairer vos soirées, réchauffer vos hivers, vous êtes libre. Mais alors, partez, marchez, courez vers un pays désert et mourrez dans un trou, seul avec votre amour. Mais si, main dans la main, vous voulez parcourir votre route, la choisissant parmi celles que les autres ont tracées, si vous voulez habiter la maison que d'autres ont construite, y vivre en paix, protégé par des hommes veilleurs, si vous voulez ensemble manger le pain que d'autres ont cuit tandis que vous dormiez, si vous voulez pour vos enfants l'école, les maîtres et les livres et pour vos bras le travail et le salaire dû, si vous voulez que vos frères, unis et solidaires, s'organisent pour protéger votre santé, soigner la maladie, vous permettent d'élever les fils que vous avez voulu et vivre en paix vos dernières années. Si vous voulez des lois pour défendre ces droits, des hommes pour les faire et d'autres pour les voter, si vous demandez que ces lois soient toujours sauvegardées, si, enfin, vous refusez d'être odieux profiteurs qui exigent beaucoup des autres tout en les ignorant, alors vous engagerez devant la société qui s'engage pour vous. Sur la liste des volontaires d'amour, vos noms seront inscrits et vous signerez votre oui, solennelle adhésion à cette société d'hommes qui construisent le monde. J'allais parler, mais le sage dit encore. Un membre d'une vie ne vit dans le corps que lié aux autres membres. Et quand deux bras s'unissent pour porter lourde peine ou triomphe en bonheur, tous les membres souffrent, tous se réjouissent qui les portent avec eux. Ainsi, l'homme et la femme pour la vie ne peuvent faire alliance sans que frémisse de joie cachée l'humanité entière, car l'amour est le sang de son corps qui sans lui ne grandit. C'est surtout à cause de cette responsabilité que doivent s'engager devant tous ceux qui librement décident de fonder un foyer. Et leurs parents, leurs amis et tous les hommes sont ensemble responsables de leur réussite. C'est aussi pour cela, amis, que les croyants s'engagent devant Dieu, dans l'Église. Pour cela et pour beaucoup d'autres raisons. Dites-moi, je vous en prie, pourquoi cette démarche et pourquoi ce sacrement qu'avec mon amour, un jour je recevrai? Le sacrement de mariage, mon petit, est un si grand mystère qu'il faudrait en parler des mots ciselés dans l'or pur, et je n'ai que de pauvres mots à ma disposition. Moi qui n'ai su vivre ce sacrement dans la lumière et qui péniblement aujourd'hui tente seulement d'en vivre dans la nuit. Parlez quand même, ami, j'ai besoin de savoir pour mieux me préparer. Écoute, mon petit. Dieu de toute éternité, amoureux silencieux des hommes, pour leur déclarer son amour, un jour choisit un peuple. Méfiant ses volages, le peuple au cœur trop dur fut mille fois infidèle à l'amour qui appelle et mille fois pardonné par l'amour fidèle. Dieu choisit alors une vierge bénie entre toutes les femmes pour lui murmurer tout bas les secrets de l'amour et la parole méditée en son cœur disponible, dans son corps prit racine à l'ombre de l'esprit. Et par Marie, Dieu en Jésus épousa l'humanité, épousaille réussie oui, parfait, de l'alliance nouvelle scellée jusqu'en éternité. Dieu, désormais, est parmi nous, l'un de nous, notre frère. Cœur de Dieu, corps de Dieu, livré en Jésus, bras ouverts sur la croix crucifiée par l'infidélité. Cœur de Dieu, corps de Dieu, vivant au-delà de la mort, compagnon pour toujours des hommes, en peuple cheminant. Cœur de Dieu, corps de Dieu, offert en communion à ceux qui disent oui, à son oui qui invite. C'est dans ce oui de l'Alliance nouvelle, oui plus grand que la terre ronde et plus large que les rives du temps, que depuis les premiers hommes et les premières femmes balbutiant leur « je t'aime » en de multiples langues, les couples un à un rejoignent en chantant le long cortège de noces qui traverse l'histoire. Et dans ce long cortège, la route où chemine l'immense cordée des croyants passe par l'Église de Jésus-Christ pour que soient prononcées dans la communauté les paroles de feu qui engagent les vies. Nous savons et nous reconnaissons, ô Dieu, qu'à notre amour tu es présent et que de toi nous recevons cet immense cadeau, cadeau devenu nôtre et que nous nous offrons. Nous venons devant toi, Seigneur, célébrer cet amour et nous le déclarer. Et prononçant notre oui pour toujours, nous entendrons le tien, car librement nous engageant, tu t'engages avec nous. Nous croyons que ce double engagement est sacrement d'amour pour nous donner par nous reçu, pour que soit nouée notre alliance en ton alliance avec l'humanité. Nous croyons, ô Jésus, que tu es envoyé par le Père pour révéler aux hommes l'infini de l'amour trinitaire, leur offrant enfin un visage à contempler, et des actes et des mots pour nourrir leur faim et abreuver leur soif. Nous croyons que par la grâce du sacrement, nous sommes nous aussi envoyés l'un à l'autre pour dessiner à nos yeux émerveillés une tremblante image de cet amour révélé et nous offrir en nos gestes quotidiens quelques miettes nourrissantes de cet amour distribué. Nous croyons que tu as fait alliance avec ton peuple, ton Église chérie, et que tu es fidèle à tout jamais à la parole donnée. Et nous croyons que notre oui, chaque jour renouvelé, sera pour nos frères sensible témoignage de ton oui réussi. Nous croyons que tu as épousé l'humanité entière en lui donnant ton corps pour, avec elle, ne faire qu'une seule chair. Et nous croyons que nous aussi, si purs nous sommes, délivrés d'égoïsme, dans la joie, nous offrant l'un à l'autre, chair unie en communion solennelle, nous enracinerons ton amour dans la chair du monde. Nous croyons que tu sauves nos amours qui trop souvent trébuchent et tombent, les libérant des poussières et des bouts de la route, et les portant en ton cœur haut sur la croix élevée, les arrachent à la mort pour les faire fleurir jusqu'au ciel de ton Père. Et nous croyons que nous aussi, luttant pour nous aimer chaque jour davantage, avec toi, victorieux des croix dressées sur nos chemins, nous donnerons à notre amour sa dimension d'éternité. Je ne comprends pas tout. J'allais le dire au sage, mais déjà, à nouveau, il parlait. Ces mots ne sont que balbutiements, car on ne peut en des paroles enfermer l'infini, et nos vies, hélas, peintes aux grisailles quotidiennes, ne sont que pâles reflets de la lumière offerte à nos yeux éblouis. Tu souffriras peut-être un jour, j'en ai moi-même tant souffert, de cet humiliant décalage entre ce que nous vivons et ce que nous devrions vivre. Mais je t'en prie, ne renonce jamais à contempler le mystère d'amour en toute sa profondeur. Souviens-toi aussi que vous ne serez jamais seul, ton amour et toi-même, si vous avez décidé librement d'inviter Jésus à vivre au cœur de votre foyer, et si vous vous unissez à tous ceux qui tentent avec vous d'incarner l'amour en ce monde qui attend. Va, mon petit. Une brindille en flamme dans la cheminée ne fait pas feu de bois, ce sont les branches toutes ensemble allumées qui font la chaleur et la lumière, et certaines s'éteignent tandis que d'autres se rallument, et la cendre est mêlée aux flammes du foyer. Ainsi est faite notre vie de flammes et de cendres. Mais le feu jamais ne meurt, car c'est ensemble que nous nous consumons, et l'amour allumé au cœur brûlant de Jésus-Christ jamais ne s'éteindra. Chapitre 35. Malgré les paroles apaisantes du sage, une fois encore je me disais « Tout cela est trop beau !» J'étais comme un amateur rêvant de peindre ou de sculpter qui, regardant une œuvre d'art, n'y voit d'abord que couleurs banales ou formes habituelles mille fois répétées. Mais quand l'artiste vient devant lui détailler son œuvre et peut à peu l'aider à en découvrir la profondeur, quand chaque couleur, chaque forme prend sens et que le chef-d'œuvre en son ensemble s'anime et devient chant du monde, alors les illusions s'envolent tandis que se paralysent les bras de l'apprenti et l'esprit murmure dans le cœur qui regrette « Ce n'est pas pour moi ». Ainsi, le sage m'avait fait découvrir les vraies dimensions de l'amour. Et maintes fois, je le répète, m'attirant ses reproches, je lui avais dit « C'est trop difficile, vous me décrivez des sommets inaccessibles pour moi ». Aujourd'hui encore, après avoir réfléchi sur le sacrement de mariage, la perspective de vivre avec Jésus-Christ, notre amour de couple, m'apparaissait davantage comme une responsabilité qui me dépassait que comme un compagnonnage qui me fortifiait. Un autre aspect me décourageait, et plus encore peut-être m'exaspérait, voire me révoltait. J'entendais autour de moi des hommes bien pensants affirmer qu'en amour, faire ceci ou cela était mal ou très mal, tandis que je pensais que c'était normal. Les hommes d'église de leur côté, dressés sur notre route, interdit sur interdit, tandis que les radios et les journaux, gourmands de sensations, faisaient claquer au vent le bruit de leur condamnation. Bref, l'amour m'apparaissait alors comme un terrain miné que bien peu d'hommes pouvaient parcourir sans danger de se perdre. Autour de moi, on souriait, riait, on se moquait. Et beaucoup continuaient leur route, indifférents aux paroles de ses frères prêcheurs. Heureusement, mon ami ne prêchait pas ainsi. C'est pour cela que je l'écoutais. Mais ses paroles me gênaient beaucoup plus que tous ces interdits qui résonnaient à mes oreilles distraites. De ses paroles à lui, je ne pouvais pas rire. Et c'est moi qui décidais qu'il me fallait changer de vie. J'ai honte de le dire, mais quelquefois je concluais que j'aurais été plus tranquille de ne rien savoir. Malgré tout, je continuais d'interroger mon ami. Quand j'entrais chez lui ce jour-là, une jeune fille sortait. « Mon infirmière, » dit-il en me la présentant. Je ne la regardais qu'à peine, car j'étais brusquement inquiet. Mon ami était-il gravement malade ? Il me rassura. Cependant, en lui serrant la main, je constatai qu'il avait de la fièvre. j'allais me retirer. « Reste !» me dit-il. « Il faut parler encore !» Et une fois de plus, ajouta-t-il malicieux, « il faut te rassurer !» Je ne m'étonnais plus maintenant qu'il connût mes sentiments avant que je ne les expose. J'en tirais même une certaine satisfaction, pensant qu'il fallait beaucoup aimer son ami pour le deviner ainsi. Il se recueillit et parla. L'amour est un sommet qui culmine en plein ciel, et ce ciel est famille de Dieu, Père, Fils, Esprit, seul amour infini. L'homme ne pourra aimer comme on aime en Dieu seulement le jour où, parfaitement uni à ses frères, en Jésus-Christ leur frère, celui-ci les conduisant en cortège, les fera asseoir au repas d'amour des noces éternelles. Mais la route pour le couple est sinueuse qui veut parvenir au sommet. Elle tourne et retourne sur la terre des hommes. Elle monte et descend pour remonter encore, et quelquefois s'égare en des sentiers de rêve qui se brisent aux parois du rocher. Nul homme ne peut monter d'un trait, telle la flèche qui droit au but s'envole, car l'homme ne peut voler et n'est qu'un apprenti qui ne sait pas marcher. Il apprend le pas d'amour sur les routes journalières, et les couples fougueux, éblouis de bonheur, oublient souvent que la vallée est très loin du sommet. Quand sur le long chemin ces amoureux avides cherchent en tâtonnant les gestes et les mots qui nourrissent l'amour, l'égoïsme, en leur cœur trop étroit et leur corps trop lourd, accumule souvent les erreurs pesantes. Ainsi certains romans d'amour avec des fautes sont écrits, mais ils n'en sont pas moins précieux aux yeux de Jésus-Christ, si humblement, fidèlement, les voyageurs en route tentent d'apprendre de lui les règles d'orthographe. Le guide, cependant, s'il doit encourager, en redisant sans cesse que le point de départ n'est pas point d'arrivée, serait très mauvais guide s'il ne rappelait en même temps qu'un seul mont est sommet parmi les petits monts. Il le serait aussi s'il cachait aux voyageurs encordés la longueur de l'escalade, la dureté du rocher, les risques de faux pas et les chutes possibles, pour ne vanter que la splendeur du paysage, la pureté des sommets, la chaleur du soleil et les fleurs cueillies. Certains couples négligent les guides expérimentés, s'élancent seuls hors des sentiers tracés. Ils disent en riant qu'ils se sont libérés des morales astreignantes, des tabous contraignants, qu'ils sont assez grands pour décider du nord et décider du sud, assez forts pour marcher sans pain, sans eau, s'ils se sont égarés. Ils naviguent alors, négligeant cartes et boussoles, certains qu'en eux l'instinct est guide plus sûr que triste règlement et sévère mise en garde. Insensé, qui peut atteindre le sommet sans connaître la route? Les passages dangereux, les ravins, les crevasses? Qui peut marcher les yeux fermés sans lire sur les bornes l'annonce du tournant dangereux, des multiples obstacles, des vitesses limitées et des routes interdites? Et qui peut négliger les conseils de ceux qui connaissent le chemin parce qu'ils ont du voyage itinéraire détaillé? Insensé! Le sportif peut-il devenir champion qui refuse de son sport les règles minutieuses et de son entraîneur les consignes précieuses? La musique peut-elle naître d'instruments rétifs aux règles des accords et de musiciens qui refusent un chef pour l'orchestre? Et l'arbre peut-il pousser s'il n'est planté en la terre qu'il lui faut, à l'ombre ou au soleil, abreuvé d'eau ou très vite sevré, guidé par des tuteurs ou régulièrement taillé? Amis auditeurs, nous allons arrêter là la lecture du jour. Il y a tellement de choses à repenser, à relire. Il y a de nombreuses phrases importantes. Une en particulier, après quelques autres phrases sur l'amour parfait. Marie, auprès de la croix de Jésus, ne disait rien. Et Jésus lui-même, devant la pécheresse, se taisait. Et l'autre conclut, mais je crois qu'il priait. Que de choses seraient encore à découvrir dans ce texte. Nous continuerons lors de notre prochaine lecture, à savoir L'émission « Je lis pour vous » sur Radio Alliance Plus 103.2 FM et d'A+. À bientôt, chers auditeurs. N'oubliez pas de l'écouter.